Bonjour à tous et bienvenue à Loin de s'en foutre, première émission de cette nouvelle année, année 2021, qu'on attendait depuis impatiemment, depuis plusieurs mois. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes, peu importe où vous êtes où, pour écouter cette première émission. J'espère que mes collègues ont passé d'excellentes fêtes aussi et passent un bon début d'année. Jean Gounel, Sidney Faux, comment ça va?
Ça va, très bien, merci. Merci. Bonne année tout le monde.
Bonne année, bonne année. On va commencer ça en grand, les gars. On va parler d'un paquet de sujets différents. Ça va aller des photos en noir et blanc de l'Impact de Montréal à un paquet d'histoires concernant des coachs un peu partout sur la planète. On aura également les sujets chauds. Si vous le voulez bien, on va commencer par notre segment à domicile. Pourquoi? Bien, pour parler de quelque chose qu'on attend presque aussi impatiemment qu'on attendait l'année 2021, le fameux rebranding de l'Impact de Montréal. Juste avant de partir pour les fêtes, après le bilan de fin de saison de l'Impact, le club avait annoncé que oui, il allait y avoir un changement identitaire majeur pour 2021. On a commencé à faire tourner des photos tranquillement, 92, 2012, 2021. Es-tu surpris, Sid, que ce ne soit pas encore annoncé? Et si tu es surpris, ben, est-ce que ça te froisse un peu?
Non, je suis pas du tout surpris que ce soit pas encore annoncé. Je pense que il y a un temps de déploiement de différentes phases de la campagne de communication d'Impact de Montréal et ça suit une logique. C'est certain, lorsque on est très très proche du club et qu'on a vent des fuites, on a un temps d'avance qui est peut-être de un mois et demi sur l'Impact de Montréal. Mais en même temps, je comprends l'impact dans une situation aussi où on n'a pas la confirmation du retour de la MLS. Qu'on ne sait pas encore les conditions d'organisation de la saison 2021, que de la part de l'Impact, de ne pas être très pressé, de ne pas avoir finalement rushé l'annonce suite à la fuite et d'avoir décidé de rester sur, j'imagine, ce qui étaient les délais et les dates prévues initialement.
Juste question de bien comprendre ce que tu veux dire. Tu parles de gens qui sont près du club, qui ont accès, entre, je ne sais pas comment tu l'as dit tantôt, là, je paraphrase un peu, à des fuites, ça fait qu'on a un temps d'avance. Tu parles de quoi? De gens qui s'impatientent? De gens qui ont sorti d'autres infos depuis de Radio-Canada? Juste question de préciser.
Non, je parle effectivement les premières parties prenantes, qui sont les supporters les plus informés. Il y a des supporters qui ont le nez collé sur la nouvelle Impact de Montréal et qui sont au courant de tout, parfois même avant même l'Impact eux-mêmes. Et c'est certain qu'eux, ils sont dans un espace-temps qui est d'un mois et demi d'avance sur tout le monde et que leur impatience, elle est très grande. Lorsqu'on se replace auprès d'un très très grand public qui suit l'impact à une mesure plutôt raisonnable, l'impact n'a aucune raison de rusher son déploiement et ses messages.
Ouais, et c'est pas le noyau dur qui fait en sorte qu'on a besoin d'un rebranding comme celui-là, donc c'est intéressant que tu fasses le parallèle entre les deux. On a parlé d'ailleurs avant Noël, il y a deux univers, hein. Il y a ceux qui sont très très près de l'arbre, j'en fais partie. Et il y a la forêt en arrière que l'Impact essaie d'aller rejoindre avec ce changement d'identité-là. Toi, Jean, l'évolution de ce dossier-là, qui tranquillement mais sûrement continue d'avancer, là, on a confirmé que ça s'en venait, on a commencé, en bon français, à envoyer des teasers avec des images, comme je le disais, qui font référence à des années charnières, le début du club en MLS, ça c'était 2012-2021, qui va inscrire le début d'un nouveau chapitre. Qu'est-ce que tu penses de tout ça à ce stade-ci de l'opération?
Je rejoins totalement Sid dans son analyse, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas d'urgence, pas besoin de presser les choses. Quand le club, juste après notre dernière émission, c'est-à-dire juste après le bilan de fin d'année, lorsque le club a annoncé qu'il fallait attendre et qu'il était en train de préparer ce projet, je ne me rappelle plus exactement de la terminologie, mais c'était quelque chose de majeur. Hein. Le phrasé lui-même annonçait exactement quelque chose d'important et de foncièrement un changement au niveau quasiment organique. Hein. C'était vraiment quelque chose qui semblait majeur dans le club, dans le statut du club lui-même. Donc je pense qu'à partir du moment où on annonce quelque chose comme ça, on ne fait pas d'erreur. Et on prend vraiment le temps de bien le faire, de bien le présenter. Effectivement, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence vis-à-vis de la MLS. Il n'y a pas d'urgence vis-à-vis du public qui est mis dans une situation d'attente. Mais effectivement, comme dit Sid, on on en parle. Ça fait aussi partie du jeu, Olivier, on en discute. Hein.
Ouais.
Et non, je ne suis pas surpris du tout. Et au contraire, je trouve que c'est plutôt bien de mettre les choses tranquillement, mettre tranquillement la table pour pas avoir d'erreur. J'étais surpris au début, lors des toutes premières annonces, qu'à aucun moment on n'ait parlé, par exemple, de consulter un petit peu le public pour voir ce qu'il en pensait, etc. Maintenant, peut-être que c'est quelque chose qui a été fait enfin, de façon interne et pas besoin de le raconter partout. Pour l'instant, non, je dirais que les choses avancent normalement et qu'il n'y a pas à s'impatienter, qu'il n'y a pas certainement pas à se demander ce qui se passe, quoi.
Les gars, juste pour faire une parenthèse puis clore ce dossier-là, on aura certainement la chance de s'en reparler la semaine prochaine, mais imaginez la complexité de lancer une nouvelle identité déjà à la base, on s'entend que c'est une grosse opération, mais de lancer ça, sachant que le Canadien de Montréal, qui d'habitude est en pleine saison à ce stade-ci, tu as eu le vacarme du camp d'entraînement, du début de la campagne au mois d'octobre. Là, tu es en plein dedans. C'est la saison du Canadien qui commence le 13. Et tu as toutes les annonces du gouvernement Legault aussi concernant la COVID. Essayer de se faire entendre, de choisir le bon moment où tu vas tomber entre deux cracks, et là, dans le bon sens du terme, pour être capable d'avoir un peu de place dans les médias sportifs en particulier, c'est là où je vous rejoins moi aussi. C'est pas pendant le camp d'entraînement. En tout cas, je serais surpris que ce soit pendant le camp d'entraînement que tout d'un coup, on lance cette nouvelle-là, à moins que ce soit stratégique et qu'on s'y rattache d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vraiment toute une opération que de lancer une nouvelle identité. Moi, vous le savez, là, on va pas revenir là-dessus. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Mais choisir le moment où on annonce officiellement c'est quoi si on le fait d'un coup avec une conférence de presse ou une annonce choc? Bref, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler tout ça au cours des prochains jours, des prochaines semaines, parce que se faire un petit peu de place au soleil, même au mois de janvier, surtout au mois de janvier, dans un mois de janvier où le Canadien de Montréal lance sa saison, aïe aïe, toute une opération. Parlant de place au soleil, les gars, qu'est-ce qui vous intrigue le plus en MLS? Est-ce que c'est le passage, justement, de Greg Vanney du froid torontois au soleil de la Californie pour coacher le LA Galaxy? Est-ce que c'est cette nomination-là qui va plus vous intéresser au cours de la prochaine saison ou celle de Gabby Heinze, l'ancien défenseur du PSG? Il va peut-être pouvoir nous parler en français si on a accès à lui un petit peu. Ancien défenseur de Manchester United, international argentin qui s'en va du côté de Atlanta United. Jean, laquelle des deux t'intrigue le plus?
Hey, je suis pas mal intrigué, vraiment au sens d'intrigué, c'est Heinze. Parce que Vanney, on connaît et on sait sensiblement pourquoi il va à LA, où il a joué, il a été joueur à une des époques importantes du club, pardon. Et on a une assez bonne idée de pourquoi il y va. Il y va pour sensiblement pas refaire la même chose, mais sur les mêmes bases que ce qu'il a fait à Toronto, parce que le Galaxy a gravement chuté par rapport à il y a 6-7 ans où il était vraiment au sommet dans ces belles années. Hein. Le poste Beckham, mettons, mais surtout Donovan Keane, où là, c'était vraiment l'équipe non seulement dominante, mais l'équipe qui elle était à la hauteur de ce qu'elle voulait montrer. Elle est Galaxy, c'était exactement ça. C'était l'équipe qui dominait, l'équipe qui allumait la MLS, qui était le modèle MLS qu'on allait montrer un petit peu partout dans le monde. C'est plus ça du tout. Clairement, ça s'est planté, mais vraiment gros. Il y a eu. Alors, ils ont essayé de survivre sur leur image à Galaxy, mais c'est des pansements, hein. C'est des pansements Zlatan, c'est très bien, mais c'est un coup médiatique, c'est un joli coup parce qu'il a quand même contribué de belle façon. Mais est-ce que ça a amené le Galaxy? Ça les a fait survivre peut-être, disons, une petite partie, mais c'est pas Zlatan qui va relancer la machine Galaxy. Il fallait un changement beaucoup plus profond, pardon, et Vanney peut apporter ça, vu son expérience à Toronto. Donc ça, c'est une chose. Heinze, il découvre quelque chose de complètement différent. Il va dans un club qui est relativement exigeant. On a entendu Carlos Bocanegra, le président, il a dit, on est exigeant au niveau du jeu, au niveau de ce qu'on demande à notre entraîneur, parce qu'on a aussi une philosophie. Tata Martino au début, il y a toujours eu un petit clin d'œil à Barcelone, par exemple, avec l'Académie, avec l'Atlanta United 2. Et donc, on va demander à INSEE d'aller de regarder un petit peu dans ce sens-là. Il peut être intéressant. INSEE a été joueur sous Tata Martino à un moment en Argentine. Donc, il n'est sans doute pas très loin de sa philosophie. Franck Debourg, ça n'a pas été une réussite, on va dire, hein, clairement. Et donc, il était temps de tourner la page parce que clairement, il y avait mésentente totale. Donc, je pense que INSEE, c'est un nouveau départ. Là aussi, c'est un club qui s'est un petit peu perdu après le départ de Almirón. Ils sont allés chercher Gonzalo Martinez. Gonzalo Martinez, il a fait 2 ans, il est reparti. Qui est maintenant à même de tirer cette équipe? On peut se poser la question. Donc, la ANC, il a un mandat de relancer un petit peu les choses, d'intégrer des jeunes rapidement. Atlanta, pas qualifié pour les séries cette année, ça a quand même fait très, très mal. Donc, lui aussi, gros, gros mandat, avec peut-être un peu moins de latitude que Vanney, qui semble être amené à refaire un gros changement fondamental. Mais ANC, on va certainement suivre ce qu'il va apporter.
Très intéressant. Cyd, avant de t'entendre sur lequel de ces deux nominations-là tu vas suivre avec le plus d'intérêt en 2021, je veux revenir sur un commentaire que Jean a fait sur le passage de Zlatan, parce que c'est quelque chose que les fans demandent souvent à Montréal, un gros nom. Si Zlatan Ibrahimovic, moi à l'époque je disais on n'aurait jamais été capable de gérer ce genre de personne-là ici, mais ça c'est un autre débat. Mais ça montre à quel point même des clubs qui ont connu beaucoup de succès dans le championnat, le passage d'un gars comme ça, c'est pas gage de succès sur le long terme. Il faut que tes bases soient solides. Et Zlatan a un peu fait oublier que le Galaxy s'en allait nulle part. Puis là, finalement, on s'est rendu à l'évidence et on essaye vraiment d'écrire une nouvelle page d'histoire. Ça peut servir de signal d'alarme à quelque part ou peut-être d'exemple aux supporters de l'Impact. Que je comprends, là, qu'ils scandent toujours des gros noms puis qu'ils veulent avoir quelqu'un qui est fracassant, surtout en attaque, mais ça ne veut pas dire que sur le long terme, ça va laisser quoi que ce soit au club.
Non, tout à fait, c'est un excellent exemple, mais je te dirais qu'on n'a même pas besoin d'aller aussi loin qu'à Los Angeles. Piatti, ces deux dernières saisons, tout simplement, Piatti est l'un des trois meilleurs joueurs de la MLS. C'est indéniable, en tout cas pour moi. Et on voit que si derrière, et je dis derrière parce que c'est son positionnement, mais si le reste de l'équipe n'est pas organisé ou au niveau, tu peux avoir l'un des trois meilleurs joueurs de la Ligue et tu t'en vas nulle part. Quand on dit Zlatan, on parle aussi, d'un point de vue montréalais, on parle aussi l'impact médiatique et marketing. Très bien, sûrement que ça aurait rempli un peu plus les tribunes, ça plutôt, oui, mais d'un point de vue purement sportif, un Zlatan et de toute façon un joueur est largement insuffisant. Et là, on parle vraiment de joueurs qui ont dominé, même surdominé la Ligue. Je sais que ça a été une grosse surprise pour beaucoup de partisans montréalais, mais Zlatan était dans les 25 joueurs qui ont marqué la Ligue. Son taux de but par match était juste hallucinant et a vraiment masqué à quel point le LA Galaxy n'allait nulle part. Et cette année, même si c'était une année Covid et particulière et tout ce qu'on veut, cette année a révélé à quel point le LA Galaxy n'allait nulle part. C'est sûr que Chicharito n'était pas au niveau attendu, très bien, mais il y a un travail majeur et je pense qu'ils ont fait le bon choix avec Greg Vanney qui avait implanté une méthode à Toronto qu'ils peuvent reproduire avec des joueurs désignés, certes, mais aussi des jeunes joueurs qui vont appuyer cette ossature et aussi la capacité de prendre des vétérans pas chers, des vétérans avec des petits contrats. Donc ce mix-là, sachant que Toronto aussi s'est un peu élevé à un star system, à des attentes, il y a des choses qui sont similaires un peu à ce qu'on peut retrouver à Galaxy, fait que c'est le bon fit. En plus, comme le rappellent les gens, c'est un ancien de la maison, tout ça c'est toujours appréciable dans le storytelling. Mais je reviens vraiment à l'idée de Piatti et l'idée de ce joueur-là qui changerait tout, c'est insuffisant. La Ligue est maintenant trop homogène, trop bien organisée pour que ce soit le cas.
Ben moi, j'y crois à ce joueur-là qui peut tout changer, mais il faut que tes bases soient solides. Trop souvent, on a fait les choses à l'envers. On est allé chercher un joueur qui devait te sauver, qui servait de bouée de sauvetage, mais à partir du moment où tu l'enlèves, cette bouée de sauvetage-là, ben, tu recommences à couler à pic. Ayant dit ça, Cyd, est-ce que toi, contrairement à Jean, qui est un petit peu plus curieux de voir ce que Heinze va faire à Atlanta, tu penches davantage du côté du LA Galaxy et ce que Vanney va faire en 2021?
C'est tellement une excellente question parce que je suis vraiment intrigué quasiment à 50% des deux côtés parce que pour des raisons un peu différentes. Mais c'est vrai que les attentes qu'ils ont été mises par Atlanta, tout simplement hallucinantes, et qu'Atlanta et les FC, ces nouvelles équipes qui affirment quasiment haut et fort, nous c'est MLS Cup ou c'est échec. Tu te dis, ok, waouh. Donc là, d'avoir un jeune entraîneur, c'est vrai qu'ils souhaitaient l'avoir lorsque Tata Martino avait quitté. Donc on dirait que c'est peut-être deux ans de perdu, mais je trouve ça fascinant de me dire, est-ce que Heinze, dans une nouvelle ligue, on sait à quel point c'est une ligue qui est très différente pour tous les aspects, les voyagements par exemple, tout genre comme la qualité des terrains, genre comme des terrains synthétiques, des terrains en herbe, il y a tout qui est différent, ton effectif n'est pas homogène, tout est différent dans la ligue. Donc en termes de coach, c'est un gros mandat qui est donné à Heinze, et j'ai peur qu'il se brûle, hein, finalement. Et j'ai peut-être un intérêt par rapport à lui, parce que je pense que ce sera plus sur du court terme. Contrairement à, je pense que Vanney, on est tout de suite dans un projet de, allez, 5 ans, même si ça a l'air fou dans le football de dire ça. Mais j'ai l'impression qu'on l'a pris, on l'a installé, on a dit, ok, comme, on va te laisser faire tes affaires, on va donner les budgets pour, évidemment, mais on va te laisser faire tes affaires. Alors qu'Heinze, ben, j'ai l'impression que dans 18 mois, il sera sûrement parti si les résultats ne sont pas au rendez-vous.
Sydney, t'as pas attendu 9 jours en 2021, avant de nous parler des terrains synthétiques en MLS, c'est inacceptable. Je pensais au moins avoir 2 semaines de break. Ben non, tu nous parles déjà des terrains synthétiques. Correct.
Et les voies chartères.
Non, on va se donner une petite pause si ça te dérange pas, les gars. On va passer du côté de notre segment en temps additionnel pour parler, Jean Gounel, du Greg Vanney de Paris. Mauricio Pochettino aussi revient à la maison, un gars qui a joué au Paris Saint-Germain et qui se retrouve à coacher là. Ça n'a pas été un départ fracassant, le match nul au cours des derniers jours face à Saint-Étienne. Mais qu'est-ce que tu penses de la nomination avant de parler de ce qui se passe sur le terrain?
C'est quelque chose qui était dans l'air quasiment depuis le moment où il est parti de Tottenham, ou en tout cas il a été remercié par Tottenham. Paris a toujours été dans les clubs intéressés, et en tout cas présenté comme club intéressé, mais c'est surtout que Paris, le PSG, a jamais dit, a jamais réfuté, et a même entretenu l'idée. Hein, c'est sûr que Pochettino a été joueur et un joueur marquant d'une certaine période du club, où il était d'ailleurs avec Heinze. Les deux s'entendent bien. D'ailleurs, Heinze a dit régulièrement que Pochettino, c'était une de ses idoles, et que jouer avec lui à Paris, ça avait été un des meilleurs moments de sa carrière. Mais c'est... non, c'est certain que c'est quelque chose qui était dans l'air. Le mouvement s'est accéléré là, sur les dernières semaines de décembre, avec une décision qui a été prise vis-à-vis de Tourelle, dont le contrat se terminait en juin. Donc la question, elle était simple, est-ce qu'on attend la fin de l'année, la fin de la saison, sachant qu'à partir de là, à partir de janvier, on va commencer à discuter avec un successeur, quel qu'il soit, et puis petit à petit amener les choses, ou bien on saute sur le case Pochettino tout de suite, parce que je ne sais pas ce qui peut se passer dans les 6 mois qui viennent, qu'il y a toujours de l'intérêt qui peut venir. Tu m'aurais dit il y a quelque temps que ce n'était pas possible Barcelone pour Pochettino. J'aurais dit ouais, vu qu'il était à l'Espagnol, vu ce qu'il a dit et tout. Maintenant, dans le football actuel, je ne suis plus totalement sûr de ça. Donc, c'était peut-être un risque que le PSG n'a pas voulu prendre. Ou ailleurs, d'ailleurs, ça a pu très bien être un autre club, parce que là, on va arriver en janvier dans une phase où il y a des entraîneurs qui ne vont peut-être pas rester très longtemps. Donc, je pense que c'était s'assurer d'avoir quelqu'un pour, non même pas faire la continuité, mais commencer le travail dès maintenant. Il a 6 mois pour remettre des bases, en sachant que des bases au PSG, ça commence fort. Ça commence avec la première place en Ligue 1 et s'occuper de Barcelone le mois prochain en Ligue des Champions. C'est la base du travail, disons. Mais je suis pas vraiment surpris ni par l'arrivée de Pochettino ni par la vitesse à laquelle ça s'est fait. Il était disponible, le PSG a décidé de sauter dessus. C'est pas mal dans leur logique, et ça a toujours été comme ça.
Bien, il y a trois éléments, en fait. Tu viens de toucher à deux de ces éléments-là. Il y a l'aspect sportif, reprendre la première place, parce que si je me souviens bien, le PSG, c'était 11 victoires, 3 défaites, 3 matchs nuls quand Pochettino est arrivé. Après, tu as la disponibilité du coach. Pochettino l'était. Comme tu l'as dit, on ne savait pas ce qui s'en venait sur les prochains mois. Mais Sid, le troisième élément, c'est les joueurs sur lesquels tu vas avoir des décisions à prendre, que tu vas devoir convaincre de signer des nouvelles ententes, d'attirer au club. Et c'est là où faire tomber le couperet rapidement et aller chercher Pochettino tout de suite, bien, ça donne une longueur d'avance parce que tu es capable de commencer à travailler sur des dossiers là, sachant que Pochettino est au club pour les prochaines années.
Exactement, c'est ça, ça. Tout de suite, on a une meilleure lecture de où va le club. Et donc, pour toutes les négociations qui auront lieu, surtout mercato estival, dans le cadre du PSG, on sait où on s'en va. Tandis qu'il y aura une forme d'incertitude avec Thomas Tuchel qui n'aurait vraiment pas été renouvelé. On avait atteint un point de non-retour, mais les résultats sur le terrain lui étaient favorables. Donc, je pense que dans une situation, tantôt j'ai évoqué la saison Covid, mais dans une situation où la Ligue des Champions se termine en juin comme à l'habitude, je suis certain que Tourelle ne poursuit pas l'aventure. Mais bon, comme c'était à l'été, il va en finale, puis bon, même le PSG de Leonardo, parce que c'est surtout une question d'alignement hein, qui n'était pas là. On a vanté le binôme Henry-Renard d'être sur la même longueur d'onde, de cette importance. Là, on avait le cas inverse entre un directeur sportif qui faisait le coach et le coach qui faisait directeur sportif et on avait deux hommes qui l'un des deux devait sauter donc il s'avère que c'est Tuchel dans le cas présent. Mais c'est vrai qu'au niveau du timing, au-delà de l'annonce de la période des fêtes qui est toujours un peu délicate, il y a aussi la volonté d'avoir une lecture plus claire de là où va le club. Et c'est là, je pense que c'était important de le faire maintenant et pas d'attendre peut-être qu'une élimination en huitième de finale ou autre, ce qui aurait sûrement amené un entraîneur adjoint et un patchage plutôt que là maintenant comme avec Pochettino.
On reste en bleu, blanc et rouge, les gars, mais on s'en va dans une ville un peu moins glamour que Paris. Je ne veux pas manquer de respect à la capitale écossaise, mais on va aller faire un tour du côté de Glasgow pour parler de Rangers. Steven Gerrard, Jean, qu'est-ce que tu penses de pas juste de ses performances, mais de la manière avec laquelle il s'est installé dans un club où, personnellement, moi, je ne l'attendais pas. Et si tu m'avais dit, ben, on va passer quelques années avec lui à Liverpool, en train d'apprendre, puis là, tout d'un coup, on va lui donner une job peut-être en Championship, comme Frank Lampard l'a fait, ou à quelque part en Premier League. Moi, je ne m'attendais pas à le voir partir à Rangers. C'est ce qu'il a fait. Là. Il est en train de brûler la Ligue en ce moment. C'est 20 victoires, 2 matchs nuls, aucune défaite en ce moment pour Rangers, qui est premier au championnat, avec l'historique des 15 dernières années, 20 dernières années où Celtic était l'équipe largement dominante, principalement après les problèmes financiers que Rangers a eus. Qu'est-ce qui te frappe le plus du règne de Steven Gerrard en ce moment à Rangers?
C'est la facilité dans laquelle il s'est installé au poste. Parce que c'est un poste avec énormément de pression. Traditionnellement, historiquement, c'est un des deux gros clubs écossais. Donc, tu as connu, tu l'as dit, un méchant problème avec donc, dépôt de bilan au début des années 2010 et donc rétrogradation administrative en 4e division. Donc, tous les joueurs, et ils étaient une partie du problème, qui était donc un gros, gros niveau salarial. Des joueurs vedettes, parce que c'est un club qui, pendant les années, mettons fin années 90-2000, avait une masse salariale énorme. On avait Dick Advocaat comme entraîneur, il y avait 3 ou 4 internationaux néerlandais, il y avait Brian Laudrup, il y a eu une époque où il y avait Paul Gascoigne, enfin bon, etc. Donc, c'est plus possible, le club explose, dépôt de bilan, retour en 4e division, remontée progressive. Maintenant qu'ils sont installés de nouveau en Premier League, qu'est-ce qu'on attend? C'est à nouveau la rivalité avec le Celtic. Et là, donc, on demande à Steven Gerrard de piloter ça. Il est arrivé avec un projet en disant, bon, bah, regarde, on part quand même, on n'a pas actuellement le même acquis que le Celtic. On va le gagner. On va petit à petit l'apprendre. On va l'apprendre. On va trouver une bonne mise en place. Bon, il arrive avec quand même... Il y avait le carnet d'adresse, toujours. C'est, dès son arrivée, il est allé chercher 3 ou 4 jeunes de Liverpool en prêt. Ça s'est fait très facilement et les gars ont vraiment bien progressé et bien aidé. Mais petit à petit, lui-même, dans un boulot à pression, parce qu'on lui demande maintenant de reprendre la première place au championnat et c'est tout, hein. Rien de moins, je veux dire. Ok, il l'assume très très bien. Il a un discours qui est extrêmement franc, extrêmement direct. Hein, ce qu'il a dit au départ, il a dit les gars, vous allez tous jouer, mais vous allez certainement pas jouer tous les matchs. Donc, il va y avoir une tournante régulière qui va se faire. Tout le monde l'a accepté. Comme il l'a dit à un moment, il a dit je pense que petit à petit aussi, on a commencé à voir ce qu'on avait dans l'effectif et mettre ou laisser de côté les joueurs qui ne suivaient pas ou qui ne pouvaient pas suivre le projet. Et on a quelque chose de bien au niveau du jeu. C'est une équipe qui est vraiment intéressante avec des joueurs qui plus ou moins connus et qu'on redécouvre maintenant. Barisic, Tavernier, deux latéraux là, qui sont vraiment très, très bons. Un international canadien quand même avec Scott Arfield. Qui joue assez régulièrement. Deux, trois joueurs. Un qui est assez amusant, c'est Morelos en attaque, international colombien, parce qu'il plante sans arrêt. Mais d'un côté, tu peux demander aux supporters, des fois, il énerve tellement il en rate à côté. Donc, ça met un peu les nerfs à tout le monde. Mais c'est une équipe qui se tient debout, qui joue de façon agréable. Ça fait deux saisons maintenant qu'ils sortent bien solidement de leur groupe de Ligue Europa. Et c'est un club qui est capable de progresser quand même assez loin. Ils étaient en quart l'année dernière. Donc je pense que ça va très bien. Sachant encore une fois que Steven Gerrard, on sait où il va. Hein, il ne va pas rester 10 ans aux Rangers. Et on sait qu'à un moment ou à un autre, il va retourner à Liverpool. Et puis... Quand le moment sera venu de remplacer Jürgen Klopp, qui ne sera donc pas demain, mais on sait que c'est écrit. Là. Donc, pour l'instant, ça tourne bien. Et au niveau de la pression, au niveau de ce qu'on lui demande, je pense qu'il n'y a pas mieux pour franchir cette étape-là.
Mais c'est intéressant parce que, Sid, c'est justement la question que je voulais te poser. Jean vient d'y répondre. Je pense qu'on va tous être d'accord que tôt ou tard, Steven Gerrard se ramasse à la barre de Liverpool. Mais contrairement à ce qu'on voit d'habitude, où tu dis le plus tôt le coach peut se faire limoger, le plus vite ma chance va venir, l'impression que Steven Gerrard ne se dit pas ça en ce moment. Il dit, regarde, si Jürgen Klopp peut avoir un long règne, ce qu'il a établi comme fondation qui est déjà solide, bien, ça va l'être encore plus. Et moi, je vais hériter de quelque chose avec lequel je suis capable de partir plus vite, que je n'aurai pas à reconstruire, chose que Steven Gerrard a bien fait avec Rangers. Mais là, passer à Liverpool, c'est une toute autre affaire avec une pression qui va encore être plus importante parce que ce n'est pas juste en Écosse ou au Royaume-Uni qu'on va prêter attention, ça va être partout sur la planète. Donc, c'est quasiment un scénario idéal pour Jürgen Klopp parce que lui, il sait que le prochain, c'est Steven Gerrard, mais Steven Gerrard n'est pas pressé. Et inversement, plus longtemps Jürgen Klopp peut rester là, plus ça va faire l'affaire de Steven Gerrard. C'est un peu tordu, là, mais dans le monde du sport où tout le monde veut que quelqu'un perde sa job pour être capable d'avoir son opportunité, c'est comme si là, le statu quo est parfait pour encore quelques années.
Oui, et de toute façon, le club a accumulé tellement de crédits qu'il en a encore pour 2 ans, et ça c'est une évidence. Il pourrait finir sur le podium, ce qui serait plutôt assez logique en vue des états des formes cette année, et qu'il n'y a personne qui remettra en question son statut. Il faudrait peut-être une deuxième saison plutôt compliquée afin qu'on commence à s'interroger. Par contre, en termes d'effectifs, si on reste sur cette période que j'imagine de 2 ans, il y aura forcément un renouvellement de cycle. Ce sera pas avec les Salah, les Mané, les Firmino qu'un Steven Gerrard mettra en place son projet. Ce qui peut être intéressant lorsqu'on voit le cas de Lampard l'an passé, lorsqu'il était vraiment avec ses Baby Blues, mais on sait que sur le moyen terme, c'est pas viable puisque ces clubs-là investissent, et on voit, et là j'anticipe quasiment le prochain sujet sur Lampard, que quand il y a un gros investissement et quand il y a des égos à gérer et quand il faut faire un retour sur investissement, la job de coach change. Et là, je pense que là, c'est intéressant pour Steven Gerrard, c'est continuer d'apprendre. C'est parce que le coaching à ce niveau de club n'est pas juste du coaching, c'est du management et c'est deux jobs complètement différents sur lesquels il faut essayer de se faire la main, il faut essayer d'apprendre le plus possible, parler à plus de monde possible. Et on le voit avec des succès comme ceux d'Ancelotti, Everton, des succès instantanés. Le coaching est très différent dans cette gestion de l'humain et là il a encore beaucoup à apprendre, c'est certain.
Parle-moi justement, Sidney Faux, de l'ancien coéquipier de Steven Gerrard à Chelsea. Si Gerrard en a pour 2 ans à attendre sa chance avec les crédits accumulés par Jurgen Klopp à Anfield, Frank Lampard en a pour combien de temps, lui, à la barre de l'équipe? Est-ce qu'il est sérieusement en danger à très court terme, sachant que là, c'est quoi? C'est une victoire à leurs 7 derniers matchs du côté de Chelsea, son 9e au championnat avec 7 points de retard avec la tête. Ça, c'est peut-être pas la fin du monde, mais t'es quand même dans le ventre mou du championnat. Lampard se trouve où en ce moment?
Écoute, j'espère que qu'Abramovic prend une grande respiration et qu'il ne va pas faire les...
c'est un peu pire. Souvent, ça.
On est en début d'année et ne va pas paniquer dans le sens que je comprends l'investissement qui a été fait, qui était selon moi trop élevé et pas véritablement réfléchi. Quasiment le 11 partant a été changé du côté de Chelsea et Lampard était très à l'aise avec ses jeunes. Je pense qu'il aurait dû avoir peut-être une meilleure concertation sur les besoins effectifs et que quand un Werner, quand un Mendy, Silva, il y a trop de monde en même temps. Ziyech, c'est hallucinant à quel point le 11 de Chelsea a été chamboulé. Et lui laisser du temps, j'espère qu'il va pouvoir le faire. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est maintenant que Lampard apprend. C'est maintenant et qu'un autre coach viendrait et rechamboulerait tout. Forcément, c'est pas ses joueurs, c'est pas ses hommes, c'est pas sa philosophie. Et là, on aurait un grand recul. Alors qu'il a réussi à faire beaucoup l'an passé, ils sont quand même qualifiés en Ligue des Champions. Il faut lui laisser apprendre. Apprendre à gérer des hommes, apprendre à gérer des égos, apprendre à prendre des décisions fortes, à dire à des joueurs, toi, t'es sur le banc, toi, comme Pulisic, je te mets dans mon système de jeu, le ballon passe par toi, Werner, tu prends ton 6 mois pour apprendre la première ligue et t'acclimater. Il faut lui laisser ce temps-là, mais de tout ce que je vois et tout ce que je lis, j'ai l'impression que non, on ne va pas dans cette direction. On est bloqué sur les montants de transfert, on est bloqué sur l'exigence de participer à la prochaine Ligue des Champions et on pense qu'on va le mettre dehors et peut-être, je ne sais pas, m'appeler Allardyce pour un mandat de pompier. Et ça, ce n'est pas du tout ce que Chelsea doit faire.
Ouais, Sam Allardyce à Chelsea. Timo Werner est mieux de faire ses devoirs pour les rentrées de touche et les corners parce que Sam, je pense que ça va être son objectif à très court terme, ça passe souvent par ça. Big Sam, qu'on adore, mais à Chelsea, ailleurs. Roman Abramovich et Sam Allardyce qui prennent un café ensemble, ça doit faire une discussion phénoménale. Les gars, on va passer à nos sujets chauds parce qu'il y a plusieurs très bonnes questions qui nous ont été posées cette semaine. Je pense que les gens graffinaient un peu là, de nous poser leurs premières questions de 2021. Donc, les sujets chauds, on commence avec Monsieur Foot qui nous demande... On est dans le giron de l'Impact de Montréal. Le club semble annoncer un recrutement jeune, peu cher, sans joueur désigné majeur, mais investi massivement dans le marketing. Que faut-il en penser? Là, pour remettre en contexte, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ne l'auraient pas vu passer. Il y a Justin Kingsley et Paul Labonté qui ont été embauchés comme co-directeurs de la création. À l'Impact de Montréal, ça semble un mandat large parce que de ce qu'on comprend, ça va au-delà du marketing et des images ou du contenu qu'on va créer là. Donc, ce sera intéressant de savoir jusqu'où, en fait, va leur mandat de création à l'Impact, qu'on renommera bientôt, je présume. La question est intéressante parce qu'elle vient évidemment d'une perspective de fan qui veut voir des joueurs de très gros calibre sur le terrain, qui veut voir de l'argent dépensé sur le terrain. Et que là, on voit une approche qui est différente un peu. On essaye d'aller faire des coûts majeurs avec des investissements qui sont moindres et de faire en sorte que Thierry Henry ajoute de la valeur à ces jeunes joueurs-là, qu'on soit capable, en bon français, de les flipper par la suite, mais que sur le je ne sais pas combien ces gars-là gagnent, ça, je pense que ce serait une question pertinente à poser parce que comparer des joueurs désignés à deux gars qui vont s'occuper de la création, c'est-tu du temps partiel, ça? C'est-tu du temps plein? J'en ai aucune espèce d'idée. Mais qu'est-ce que tu penses de cette... Qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est la question que M. Foot nous pose, Sidney.
Oui, non, mais je pense que déjà la question clé c'est combien ils gagnent. Et bon, un c'est pas de nos affaires, mais si on a la perception que ce sont des montants ou des budgets qui sont concurrents, je crois que cette perception-là elle est fausse. Genre le marketing doit faire son travail, la billetterie doit faire le sien, la compta, etc. Et tous les départements doivent avancer et on doit investir dans ces départements-là. Le sportif c'est un autre des départements et je pense pas qu'il y ait une concurrence budgétaire entre ces deux aspects-là. Maintenant, il y a quand même une certaine ironie. Un club qui a quand même été longtemps reproché pour son absence de marketing investit maintenant dans des compétences très avancées parce que Justin Kingsley, j'en ai parlé sur Twitter, j'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a quelques années lorsqu'il était à la barre du 24CH, une opération storytelling vraiment de qualité. Moi qui ne suis pas trop ce qui se passe de ce côté-là, j'ai adoré comme de voir cette série-là. Donc il y a des compétences qui vont être cherchées avec ces deux grandes têtes de création, branding et marketing qui sont nécessaires pour l'impact et ce n'est pas à opposer avec le projet sportif qui a déjà été très bien expliqué, il me semble, par Olivier Renard et que si une opportunité se présente avec un joueur désigné, hein, on va quand même comprendre que c'est une notion comptable. S'il y a un joueur sur lequel on est capable d'investir l'argent, l'impact va tenter de le faire. Maintenant, il faut pas. Je comprends la façon dont c'est communiqué qu'on peut opposer ces notions. Pour moi, elles sont parfaitement complémentaires entre l'investissement marketing et la narrative. Jean l'a rappelé, c'est un rebranding, c'est profond. C'est pas une opération à prendre à la légère. C'est une opération qui aura des conséquences sur les 10 prochaines années de l'impact au moins, et peut-être dans comme les 30 si on souhaite que c'est quelque chose de très réussi. Donc c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. C'est normal que l'impact investisse. Maintenant, combien, on ne sait pas. Donc, c'est un peu délicat.
Jean, il y a François Ciricillo qui nous amène du côté de la Serie A italienne maintenant. Il nous demande que pensez-vous que la Roma peut gagner le Scudetto cette saison?
Wow. Ben, ils sont pas mal, la Roma. Ils sont troisième là en ce moment.
Derrière les deux équipes de Milan.
Ça tourne bien. Écoute. Je n'étais pas très sûr. Paolo Fonseca, qui est l'entraîneur qui est arrivé, qui a fait un passage, quoi, 3 ans à Shakhtar Donetsk, où ça a été son moyen, disons. Mais on voyait qu'il avait des idées, que c'était quelqu'un qui était assez agressif dans le jeu et dans ce qu'il cherchait, dans ce qu'il demandait. Et ça se voit à Milan. C'est une équipe qui a à Milan, à la Roma, pardon. C'est une équipe qui veut jouer, c'est une équipe qui veut attaquer, qui nous a un peu surpris quand ils sont allés chercher Chris Smalling, par exemple, mais qui est solide au poste, qui est solide au poste, qui a vraiment bien, vraiment très très bien, qui a fait, à la différence des Roma des années précédentes, pas fait trop de grosses folies. On reste, par exemple, il y a toujours Dzeko, qui est toujours là. Comment ça? Ça fait quand même quelques années maintenant qu'il y a. Mkhitaryan en soutien, ça marche bien aussi. Donc c'est une équipe qui est solide, qui n'a pas vraiment de grosses lacunes, qui n'est pas une équipe qui va mettre le feu. Parce qu'elle n'est pas bâtie pour ça. Elle est bâtie pour avancer solidement. Je veux dire, en offrant du bon jeu, là, ces derniers matchs, les derniers éléments que j'ai pu voir de match, c'était vraiment intéressant. Je pense qu'elle est là pour rentrer dans une place Ligue des Champions, ça c'est certain. Elle a deux gros matchs à faire cette semaine. Hein. Elle a dimanche contre l'Inter et vendredi prochain contre la Lazio. Donc deux matchs où là, ça va nous donner une bonne idée un peu de ce qu'elle est capable de faire. Pour le titre, un dark horse, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est pas mal ouvert encore en Serie A, beaucoup plus que ce qu'on pouvait penser cette saison. Donc je pense qu'il faut certainement pas l'écarter. Pour le moment, j'en fais une équipe sur laquelle je miserais plus pour une place en Ligue des Champions.
Bon, François, en gros, là, Jean te dit oui, mais non. Puis on s'en reparle
oui,
dans
mais
10
non.
jours. On s'en reparle dans 10 jours en fonction des résultats des deux prochains matchs. Tu as tout à fait raison, Jean, parce que c'est une période qui est charnière. Là, quand tu joues des matchs comme ça, coup sur coup, en l'espace de quoi, une semaine, même pas, Bref, mais je suis très heureux que François nous ait posé cette question-là, Jean, avant ces deux matchs-là, parce que là, ça va nous permettre de voir ce qui se passe sur la suite. La prochaine question nous ramène dans le giron de l'impact, celle de Karim Bawa. C'est un peu long, mais c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de stock là-dedans et je veux t'entendre par la suite. Karim nous dit, on parle que l'impact veut démontrer sa nordicité dans leur rebranding. Beaucoup de photos qui sont de l'hiver montréalais en ce moment, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Karim continue en disant, pensez-vous que ce concept pourrait être poussé jusqu'à jouer des matchs extérieurs avec le stade déneigé? L'équipe marketing auront-ils l'audace d'aller aussi loin? Avant de t'entendre là-dessus, moi, j'ai une partie de réponse parce que je me rappelle à l'époque où je commençais dans les médias à couvrir l'impact avec mon ancien collègue Frédéric Laure. Ça m'horripile encore de voir un marketing fait l'été en fonction de la météo. Ça me fait virer fou parce que justement, au printemps et à l'automne, tu fais quoi? Et la référence que je donnais toujours, c'en était deux. Les Packers de Green Bay, en fait, tu peux mettre les Bills de Buffalo, les équipes là, de NFL qui jouent dans le nord des États-Unis, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, parce qu'à ce moment-là, ben, ils survolaient tout. Et je disais, c'est comme leur fierté, eux, de regarder des équipes qui viennent du sud des États-Unis et qui disent, ben, venez-nous-en, venez-vous-en nous battre chez nous, dans nos conditions, parce que c'est ce qui nous donne un avantage compétitif. C'est la même chose, Jean, je ne sais pas si tu te rappelles, les matchs là, à l'époque que le Canada jouait contre des équipes d'Amérique centrale. C'était où? C'était à l'Île-du-Prince-Édouard qu'on allait jouer?
Oui, effectivement.
Mais tu sais, ça, c'était pourquoi? C'était pour utiliser nos conditions à notre avantage. Et je me disais toujours, pourquoi nous, on ne peut pas en avoir 50 illuminés en bedaine dans les estrades quand il neige dehors, puis on joue sur un terrain où les conditions sont difficiles, mais c'est chez nous. Tu sais, puis je disais même que puis je sais que c'est très complexe pour en avoir parlé avec des gens qui travaillaient à la billetterie à l'époque. Je disais, pourquoi tu ne peux pas faire trois saisons? Tes deux saisons vikings, là, au début puis à la fin de la saison, où là, on dit, regarde, si tu es prêt à te pointer pour tous ces matchs-là, là, on te donne un rabais parce que ce qu'on veut, c'est les vrais de vrais. Puis on a le café, ah ouais, le Bailey's, ah ouais, tout le monde en chest, il fait froid, mais c'est pas grave, c'est ça Montréal. Après, tu as l'été, tu le sais que tu vas le remplir, ton stade. J'ai toujours senti que on voyait ça comme une contrainte plutôt que d'embrasser ce côté nordique-là. Et moi, je pense que c'est tout à fait quelque chose qui doit peut-être pas être l'élément sur lequel on se base pour donner un narratif, un nouveau narratif à l'Impact de Montréal. Mais en ce moment, sachant qu'on est les deux pieds dans la neige, pourquoi ignorer ça puis attendre qu'il fasse beau au mois de juillet pour dire « Hey, venez donc, c'est le fun, une belle soirée d'été au Stade Saputo ». Je sais pas ce que tu en penses, Sid.
Non, je suis tout à fait d'accord. C'est un élément majeur de l'identité montréalaise et québécoise. Donc, pourquoi s'en passer dans sa communication? On fait le parallèle avec les Raptors sur le We the North et qui veut dire énormément sur comment les Raptors se perçoivent. Donc, oui, du côté de l'impact, je pense que c'est important. Maintenant, une autre question, j'ai vraiment pas la réponse, enfin j'avais un début de réponse, la fameuse tuyauterie du Stade Saputo. Est-ce que à quel point c'est une décision marketing / identitaire de pas jouer au Stade Saputo durant les périodes de février mars versus une question complètement logistique d'une impossibilité de pouvoir accueillir du monde. J'ai eu toute la misère du monde à trouver l'information, mais le premier match de cette année au Stade Saputo était prévu donc le 18 avril, c'était contre Houston Dynamo. Donc voilà, c'est un match qui n'a pas eu lieu, mais déjà là, il y avait une volonté de l'impact et de la MLS, je pense, de repousser le plus possible les matchs accueillis au Stade Saputo. Et donc, oui, c'est vrai qu'en termes de cédule, ça nous faisait beaucoup de matchs à l'extérieur pour l'Impact de Montréal et deux à trois matchs au Stade Olympique. Maintenant, est-ce que les gens seraient prêts à suivre? Je pense, si c'est fait dans un espèce de package viking, comme tu le dis, ça peut être intéressant. Mais je ne sais pas, honnêtement, si le stade, lui, est fonctionnel dans ces périodes-là. S'il l'est, c'est sûrement une occasion manquée de l'Impact de Montréal. Mais s'il ne l'est pas, c'est ça, il faut aussi prendre ça en considération.
Tu ouvres des éléments qui sont super intéressants juste pour ajouter à ça. Moi, quand tu parles des installations, du terrain, en ce sens-là, ce que je viens de vous dire, je l'ai appliqué au printemps, mais c'est peut-être plus pour l'automne où là, tu es en série. Tu sais, il y a quelque chose de tu es sur une lancée, dans le fond, qui t'a amené en séries éliminatoires, puis là, tu te dis, ben finalement, on va déménager chez quelqu'un d'autre au Stade olympique. Je comprends là, que logistiquement parlant, c'est peut-être ce que tu es obligé de faire, mais je pense que tu as plus de chances de prolonger à l'automne que de commencer plus tôt. Parce que plus tôt, là, tu as l'hiver au complet qu'il faut que tu attendes, puis c'est beaucoup plus incertain comme météo, surtout sachant que là, en 2020, tu as commencé à la fin février, début mars. Hey, c'est vraiment de bonheur. On a eu des hivers dans les dernières années qui se sont rendus jusqu'au mois de mai. Maintenant, je veux revenir à ce que tu disais tantôt, peut-être sur les 10, 20 prochaines années, l'influence des décisions qui se prennent en ce moment, ben le stade, c'est pas obligé d'être pour demain matin non plus qu'on le rend utilisable. Exactement, ça peut se faire sur les 5 ou 6 prochaines années et c'est là où ça va être intéressant de voir la direction qu'on prend parce que À quelque part, si tu embrasses ta nordicité, mais que tu as un stade qui est juste disponible l'hiver ou quand il fait beau, il y a quelque chose qui ne marche pas, que ce soit la tuyauterie, parce que les gens qui nous écoutent, c'est peut-être pas tout le monde qui le sait, le stade, là, en ce moment, c'est comme un chalet. Il faut que tu le fermes pour l'hiver parce que la tuyauterie, elle ne fonctionne pas. Si tu laisses ça l'hiver, tout va exploser puis il va y avoir des fuites d'eau partout. Tu as ça et tu as les sièges qu'on n'est pas certain capable de tenir quelqu'un, puis là, je ne sais pas s'il y a un certain poids ou une certaine température, mais l'hiver, tu t'assois dessus, on n'est pas certain si les bancs vont casser ou pas. Bien, c'est ça les décisions que tu as à prendre sur les 5 ou 6 prochaines années. Un, est-ce qu'on prend ces décisions-là? Et deux, est-ce qu'on le fait dans quel ordre? Et on le fait à quelle vitesse? Ça, j'ai vraiment hâte de voir, parce que j'y avais même pas pensé, Sid, mais dans toutes les explications là, de la nouvelle identité, ça, le stade en fait partie à quelque part. Est-ce que lui va suivre ou est-ce qu'on va juste continuer d'utiliser le même contenant, mais de manière différente? Super, super intéressant. Je ne sais pas si, Jean, tu avais-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Ou,
parce non, non, dernière... non. En fait, moi, je prends des éléments là. Quand la question a été posée, j'étais en train de me demander, OK, qu'est-ce qu'on est en train de me dire par nordicité? Et là, déjà... j'ai des éléments de réponse qui sont pas mal, parce que c'est suffisamment vague pour me dire, bon, c'est quoi? C'est un gimmick? Parce qu'au départ, quand tu parles de ça, tu dis, OK, je veux quelque chose de concret. Là, je trouve que ça a beaucoup plus de sens et ça rejoint un petit peu ce que je pense dans la mesure où toute cette évolution-là qui est liée à au nouveau visage, la nouvelle nature, whatever, qu'on l'appelle comme on veut, du club, c'est quelque chose qui va se mettre en place sur du long terme. Hein. C'est pas un coup de baguette magique. Hop, on devient le nouvel impact ou n'importe. C'est sur 4-5 ans, ça va demander l'appui du public, ça va demander une communion entre guillemets avec les gens qui suivent, qui vont partager l'expérience, qui vont la vivre, qui vont rentrer dedans. C'est pas on vous offre hop, tout change et puis voilà. Comme quand tu parles de rebranding, comme ça a pu arriver à Chelsea ou au PSG, si on veut chercher des exemples de rebranding récents, par exemple, et qui ont été majeurs. C'est quelque chose de complètement différent, c'est beaucoup plus, comme tu dis encore, beaucoup plus organique. Ça doit rentrer dans la population, dans la société, chez les supporters, parce qu'il y a une communion qui doit se faire avec eux, sinon on va nulle part.
Ouais, et je retiens un mot que tu as dit, il ne faut pas que ça sente la gimmick. Parce que si c'est le cas, là, c'est terminé. L'Impact de Montréal va se tirer dans le pied. Il faut vraiment que ce soit embrassé et qu'on continue. Tu sais, la garde, là, le numéro 12 qui avait été enlevé à Eddie Sebrango, c'est passé où, ça? Le défendre le Nord, c'est passé où, ça? Il y en a eu trop des trucs qu'on a utilisés pour des raisons strictement marketing, absolument, mais qu'on a oublié par la suite. Ça ne faisait pas partie de cette identité-là d'un club qui s'en cherche une ou qui va la définir prochainement. Vraiment un mot super important que tu as utilisé, Jean. Puis on termine en quelques secondes avec ta dernière réponse à la question, Jean, de Chan, qui nous demande « Quel gros joueur pourrait changer d'équipe durant le mercato d'hiver en Europe? »
Bon, il y a beaucoup trop d'incertitudes. Je ne pense pas qu'il y ait des changes d'annonces majeures.
Non.
Vu la situation un peu partout, et en particulier la situation de la COVID un peu partout, et parce que les deux sont liés, hein, la situation financière des clubs, trop d'incertitudes. Il y a encore des endroits où on se demande, est-ce que la saison va pouvoir se terminer? Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas sûr. Donc, je pense qu'il y aura... Moi, je m'attends pas à de gros mouvements durant l'hiver. Bon, le dossier dont on parle là en ce moment, c'est Özil, par exemple. Özil qui a sensiblement deux possibilités. La première, c'est Fenerbahçe. La deuxième, c'est la MLS où on parle de DC United. Je pense que ce serait, au niveau gros joueur, c'est probablement un de ceux qu'on va voir bouger. On parle un petit peu de Barcelone. Mais Barcelone va certainement pas bouger avant la fin du mois de janvier. 24 janvier, c'est les élections. Et je ne pense pas que Barcelone rentre dans un projet avec un joueur ou dans une discussion avec un joueur tant qu'on ne saura pas exactement ce qui va se passer à la présidence. Parce que la présidence, ça veut dire, en gros, directement, ça veut dire qu'est-ce qui va se passer avec Ronald Koeman et éventuellement qu'est-ce qui va se passer avec Lionel Messi. Donc je pense que du côté de Barcelone, il y a Memphis Depay qui est à Lyon et qu'ils veulent faire venir, et ça c'est une possibilité. Mais je ne suis pas sûr non plus que ça se fasse d'ici la fin du mois. Pareil, l'Atlético veut remplacer Diego Costa qui vient de partir. Il faut un complément à Luis Suarez. Il parle de Dembélé de Lyon aussi. Est-ce que ça va se faire? Voilà, un petit peu ce genre de piste-là. Donc là, tu vois, on est quand même à un niveau de joueur qui n'est pas non plus. C'est pas Pogba, c'est pas Messi, c'est pas ces joueurs-là. Et je serais surpris, ça peut arriver, ça peut complètement arriver, mais surpris de voir un de ces gros noms faire quelque chose en janvier.
Jean Gounelle, tu viens de très bien compenser pour le fait que le 8 janvier 2021, Sydney Foho nous a parlé de terrain synthétique en MLS. Toi, tu viens au moins de nous annoncer que Mesut Özil, c'est pas à Montréal qu'il s'en va s'il débarque en MLS. C'est correct, vous arrivez kiff-kiff, parce que ça, Mesut Özil à Montréal, je le sais, là. Je suis souvent critiqué pour ce commentaire-là. Ouf, que j'aurais de la difficulté à la comprendre. J'aurais. Fait que là, DC United, je suis capable de vivre avec ça, Jean. Il n'y a aucun problème. Les gars, merci. Toujours un plaisir. Très heureux de vous avoir retrouvé pour la première de 2021 à Loin de s'en foutre. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, à la maison, continuez de nous poser vos questions sur Twitter. Hashtag LDSF. Et vous pouvez consommer et partager notre contenu, comme toujours, sur le rds.ca/baladodiffusion et toutes vos plateformes préférées.